Voilà. Bonjour et bonne rentrée à tous. Alors, on va démarrer Romains chapitre 1 avec les Marseillais qui sont autour de moi et avec la grâce du Seigneur. On va lire donc Romains chapitre 1. Je vous rappelle que c'est court, c'est simplement lire la Bible ensemble, commenter et chercher à comprendre simplement le texte. Et parfois, certaines personnes n'ont pas vraiment de connaissance du texte ou de l'histoire. Donc, on va prendre les choses simplement et puis petit à petit construire à partir de là. Paul, on s'arrête là. C'est le premier mot de l'épître. Paul. Vous rappelez Paul? Vous savez qui c'est? C'est l'apôtre Paul. C'est donc Paul qui a évangélisé le pourtour de la Méditerranée avec des équipes. Il n'était pas le seul. D'autres, bien sûr, d'autres apôtres travaillaient. Mais lui en particulier a été utilisé par Dieu au départ avec ses voyages missionnaires qui sont décrits dans le livre des Actes. C'est Luc, l'auteur du livre des Actes. Luc a connu l'apôtre Paul. Et donc, on a l'avantage dans le Nouveau Testament d'avoir beaucoup d'épîtres de Paul, plus un peu la biographie de Paul, grâce à ce que Paul donne de son propre témoignage et grâce aux actes des apôtres. Les actes des apôtres qui décrivent notamment les voyages missionnaires de Paul. Donc entre les épîtres et les actes, on a beaucoup d'informations sur Paul. D'accord? Paul, donc c'était un homme qui courait pour l'évangile, on peut dire. Il a vécu pour l'évangile à 100% et sa vie était très intense. Est-ce que tu peux fermer cette porte-là? Parce que le bruit de la rue. Paul, serviteur de Jésus-Christ, littéralement esclave de Jésus-Christ, c'est marqué. Parce que pour Paul, et c'est Paul qui se présente lui-même ici, c'est lui qui écrit l'Épître aux Romains. D'accord? Il écrit l'Épître aux Romains, donc il n'avait encore pas été à Rome. Il avait entendu parler de la foi de certains chrétiens qui étaient à Rome, de gens qui avaient adopté la foi en Jésus-Christ à Rome, mais il ne les connaissait pas plus que ça, à part des contacts personnels, parce qu'il y avait beaucoup de mouvements à l'époque dans l'Empire romain, des gens qui allaient et venaient, parce que c'était en fait une seule unité politique, hein. Et donc, il pouvait connaître des gens là-bas, mais il n'avait jamais été sur place, et il aurait tellement désiré aller à Rome. Et donc finalement, il se décide de leur écrire une lettre pour clarifier le message de l'Évangile. Allez, pour nous, aujourd'hui, l'Évangile, il date de 2000 ans, donc on pense que tout est réglé, tout est clair. Mais à l'époque de Paul, ce n'était pas si clair que ça, puisque l'Évangile était parti du ministère de Jésus en Galilée, sa mort et sa résurrection, la Pentecôte, mais il y avait une opposition à l'Évangile. Parce que dans les milieux, disons, du judaïsme, tout le monde n'acceptait pas que Jésus soit le Messie. Vous voyez, donc même s'il y a eu un grand réveil à Jérusalem, il y avait une opposition féroce contre l'Évangile, d'abord de la part d'une partie du judaïsme, et puis aussi il y avait une opposition de l'Empire romain qui n'était pas une opposition tellement directe, mais indirecte, dans le sens que les Romains, enfin l'Empire romain ne comprenait pas qu'une religion puisse avoir une sorte d'ambition universelle. Pour eux, ce qui était universel, c'était l'Empire. Alors chacun peut avoir sa petite religion là où il voulait, ses petites traditions, mais il fallait pas que l'ambition soit universelle comme celle de l'Empire romain. Donc tout ça, ça crée une opposition, ça crée des dissensions, et il y avait des choses à établir par rapport à l'Évangile, pour qu'on comprenne vraiment l'importance de l'Évangile. Vous suivez? Mais finalement, si vous réfléchissez aujourd'hui, la situation n'a pas tellement changé, dans le sens que même si les forces en présence sont différentes, l'Évangile est tout aussi a tout autant besoin d'être compris et défendu qu'à l'époque de Paul. Voyez? Alors on va avancer un petit peu. Donc Paul, esclave de Jésus-Christ. Paul était conscient de plus appartenir à lui-même et d'appartenir à Jésus. Parce que avant d'avoir été saisi par Jésus-Christ, comme il le dit dans Philippiens 3, il était son propre maître. Il travaillait, il pensait travailler pour Dieu, il était très zélé, et quand Dieu l'a saisi par Jésus-Christ, sa vie a complètement changé. Et là, il se sait prisonnier de Jésus-Christ, comme il dit dans Éphésiens, ou esclave de Jésus-Christ, dans le sens qu'il a été saisi par Jésus-Christ, il ne s'appartient plus à lui-même. Vous voyez ? Mis à part pour l'évangile de Dieu. Donc, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, d'abord, et ensuite mis à part pour l'évangile de Dieu. Il est conscient d'avoir cet appel apostolique, dont il est beaucoup parlé dans les Actes des Apôtres, d'être appelé à cela, et puis aussi d'être mis à part pour l'évangile de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'est pas apôtre de n'importe quoi, pour n'importe quelle raison, c'est pour l'évangile. Tout est pour l'évangile dans la vie de Paul, d'accord ? Si vous regardez dans Philippiens, par exemple, quand vous lisez l'Épître aux Philippiens, on voit que Paul s'intéresse, enfin, c'est pas juste qu'il s'intéresse, mais Paul vit pour et dans l'Évangile. Il dit par exemple au verset 3 de Philippiens 1, « Je me réjouis, je rends grâce à mon Dieu, et puis, donc de toutes les fois que je me souviens de vous, et puis, il dit verset 5, « À cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour, jusqu'à maintenant, le premier jour, c'était le début de son ministère d'évangéliste, d'apôtre, où il a parcouru la Méditerranée, enfin, Méditerranée et le pourtour méditerranéen pour prêcher l'Évangile. Parce que les Philippiens, c'est la première église qui est implantée en Europe, et c'est aussi la première église qui va soutenir Paul concrètement quand il vous prenait part, il s'agit d'une part financière. Donc ils sont impliqués pour l'Évangile, voyez. Et puis, verset 7, « Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes, comme dans la défense de l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. » De nouveau, il parle de la défense et de l'affermissement de l'Évangile. Donc, l'Évangile revient tout le temps dans ses épîtres, dans sa pensée. Il est concentré sur l'Évangile. Et il est conscient d'avoir été mis à part par Dieu pour l'Évangile de Dieu. C'est quoi l'Évangile ?
C'est la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est, au sens propre, l'histoire de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il est venu du ciel sur la terre pour donner sa vie. Sa vie sans péché, sa mort, sa résurrection. On va lire, par exemple, dans Marc, chapitre 14. Marc 14. En fait, il ne faut pas que les épîtres de Paul, dans notre étude des épîtres de Paul, il ne faut pas qu'on oublie que lorsqu'il parle de l'Évangile, il parle de cette histoire qui nous est racontée dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, par quatre témoins différents. Mais c'est cet Évangile dont il parle. Par exemple, dans Marc chapitre 14, regardez avec moi dans Marc 14, on va lire juste un extrait. De l'Évangile, okay, pour que ce soit plus concret pour vous. Marc 14, verset 3. « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. » Là, on est pratiquement à la veille de la mort de Jésus. On est dans les derniers jours qui précèdent sa mort. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table et tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard, et vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile, sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ok ? Donc Jésus anticipe, il sait que cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'histoire qui le concerne lui, va être prêchée dans le monde entier. Et que dans cette histoire qui le concerne, il y a cette femme qui vient, juste avant sa mort, pour donner ce parfum de grand prix qui représentait plus d'un an de salaire. Donc c'était ça avait une valeur inestimable. Aujourd'hui, les parfums, ça coûte cher, mais c'est chimique. Donc en fait, c'est en termes de matières premières, c'est pas extraordinaire. Mais à l'époque, et encore aujourd'hui, ça existe, mais c'est extrêmement rare. À l'époque, les parfums étaient naturels. Donc il fallait des récoltes de produits naturels très très importantes qui étaient concentrées pour faire le parfum. Aujourd'hui, si vous prenez disons un kilo brut de parfum de roses, qui ont été des roses qui ont été récoltées au Maroc et qui ont été dont le parfum est extrait, d'accord, il en faut une quantité considérable pour faire le parfum, et là je parle d'un parfum naturel, le kilo peut coûter 500 000 euros. Vous voyez ? Je vous donne un ordre de grandeur. Ou une autre fleur. Ça c'est la base, d'accord, à partir de laquelle, et vous, ce que vous avez comme parfum dans les magasins, d'abord c'est des produits chimiques, et deuxièmement c'est de l'eau, enfin c'est du délayé de chez délayé, vous voyez, je veux dire, c'est une espèce de voile, d'eau, enfin, il n'y a pas grand-chose. Mais à l'époque, et encore aujourd'hui pour les gens qui ont les moyens, alors là ça coûte extrêmement cher, le parfum était naturel, ça coûtait très cher. Et donc ça représente, si vous voulez, ça représente aussi la valeur de l'évangile. La valeur de ce que Jésus a fait pour nous. Ça représente la grandeur de son amour. Hein? Donc quand Paul dit qu'il est esclave de Jésus-Christ, il est esclave par amour. Vous comprenez? Il a été saisi par cet amour. Et si d'un côté il y a cette femme qui a cassé son vase pour répondre on ne cassait pas le vase dans le sens de le casser par terre, mais on brisait le col pour que c'était scellé. Hein. C'était scellé pour justement que le parfum puisse pas être perdu dans la conservation. Et donc, ceux qui ont été saisis par l'évangile, ils vont donner leur vie pour cet évangile, pour ce que Jésus a fait pour eux. Vous suivez ? Ils vont donner leur vie, comme cette femme qui a donné son parfum, comme Paul qui a donné sa vie, et qui disait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile », parce qu'il se sentait saisi par Jésus-Christ et au service de Dieu de manière spéciale, spécifique, vous comprenez ? Quand il dit qu'il a été mis à part, c'est comme quand Jérémie dit que, quand Dieu dit à Jérémie, plutôt dans Jérémie chapitre 1, qu'il l'a mis à part dès le ventre de sa mère, vous voyez ?« Je t'avais établi prophète des nations », voilà, depuis avant ta naissance, je t'avais choisi, ça y est, tu es mis à part. Et Paul se sait mis à part, dans ce sens-là. Vous suivez ? Ok. Alors, on revient dans Romains chapitre 1, et je reprends le verset 1. « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. » Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit l'évangile de Dieu ? Parfois c'est l'évangile de la grâce de Dieu, parfois c'est mon évangile, Paul le dira un peu plus loin au chapitre 2, dans le sens c'est l'évangile que je prêche, que j'annonce, mais c'est d'abord l'évangile de Dieu, dans le sens, il va l'expliquer au verset suivant, regardez verset 2, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Et donc, ici on a quelque chose de très important, à savoir que quand vous étudiez le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas le comprendre sans l'Ancien Testament. D'accord ? En fait, il y a une continuité entre l'Ancien et le Nouveau. Parce que tout ce que Paul enseigne, tout ce qui est écrit dans les évangiles, c'est toujours selon les Écritures. Ou dans l'Évangile, par exemple, dans l'Évangile de Matthieu, afin que l'Écriture s'accomplisse. Parce que Jésus va accomplir environ 300 prophéties de l'Ancien Testament dans sa vie. Et quand Jésus vient sur la terre, il vient accomplir ce qui avait été décrété dans le ciel, à l'avance. Tout est déjà écrit. Sa mission est écrite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc Jésus n'est pas n'improvise pas. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas une improvisation du style « Tiens, j'arrive sur la Terre, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ces êtres humains? Voyons, cherchons une solution. Oui, quand même, non, mourir sur la croix, ça me paraît un peu dur. Non, non, c'est pas ça. C'était prévu. C'était écrit. C'est dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Hébreux chapitre 10, voyez, entre versets 1 et 5. Donc, ça veut dire que Jésus vient accomplir une mission. Et cette mission, ils se sont mis d'accord dans le ciel avant que lui vienne sur la terre, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a eu un conseil divin. Donc, pour ça que Paul dit, mais c'est l'évangile de Dieu. Cette histoire, c'est pas juste l'histoire d'un homme qui aurait été un homme merveilleux, un, comme on dit, un homme bon, un prophète. Non, 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 c'est l'évangile de Dieu. C'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui vient sur la terre pour nous sauver. C'est l'évangile de Dieu. C'est pas juste quelqu'un de bien qui a essayé de faire quelque chose de bien pour nous. D'accord ? Et puis, promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous remarquerez qu'effectivement, il y a des prophéties sur Jésus, sur le Messie, des prophéties sur le salut, des prophéties, la promesse du Saint-Esprit, d'accord ? Et donc, l'Ancien Testament est rempli de ces promesses et de ces annonces. On va d'abord lire dans Luc chapitre 24, pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Le rapport entre les Écritures, la loi et les prophètes, si vous préférez. Nous, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, à l'époque de Jésus, on ne parlait pas d'Ancien Testament. On disait la loi et les prophètes. Ce que nous, on appelle l'Ancien Testament dans le peuple d'Israël, chez les Hébreux, c'est la loi, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est la loi de Moïse, d'accord ? Ou plus exactement, l'enseignement de Moïse, la Torah. Et puis ensuite, à partir de Josué, dans ce qu'on appelle le canon hébraïque, on considère que c'est déjà à partir de Josué, on est dans les prophètes. D'accord ? Nous, on appelle ça les livres historiques. Mais en fait, c'est les prophètes, déjà, à partir de Josué. Et donc, après, c'est les prophètes. Et puis ensuite, tous les livres qui ont été écrits, disons, à une époque ultérieure, psaumes, proverbes, ces livres-là, et puis les livres d'Esdras 1 et 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, tous ces livres-là, Daniel aussi, parce que c'est un prophète post-exilique. Donc, tous ces écrits-là, on les appelle justement les écrits, les Ketubim. Donc, vous avez la Torah. Vous avez les prophètes, c'est tous ceux qui commentent finalement la loi de Moïse, d'une manière ou d'une autre, parce que prophétiquement, ils rappellent au peuple d'Israël, vous êtes sortis d'Égypte, vous devez suivre la loi de Dieu, vous ne l'avez pas suivi, c'est pour ça que tous ces malheurs vous arrivent, mais si vous revenez à Dieu et à sa loi, vous serez bénis. C'est ça, le rôle du prophète, c'est de ramener le peuple à son Dieu et à la loi de son Dieu. Et donc tous ces gens-là sont des prophètes. Et puis ensuite, les écrits, c'est ce qui s'ajoute dans le temps après toute cette période prophétique, et donc tout ce qui est à partir de l'exil à Babylone, et ensuite le retour d'exil, on appelle ça les écrits. Donc il y avait trois parties, la loi, les prophètes, les écrits, grosso modo. Hein, je dis les choses grosso modo. Maintenant, quand Jésus parle de la loi et des prophètes, donc de tout ce que nous on appelle l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il en parle? Regardez dans Luc chapitre 24. Vous savez, les disciples qui partaient à Emmaüs, qui était un village pas loin de Jérusalem, ils sont tristes parce que Jésus vient de mourir. Et voilà 3 jours qu'il est mort. Et puis, Jésus les rencontre en chemin. Il est ressuscité. Il leur apparaît dans sa résurrection, avec son corps ressuscité. Mais eux ne le reconnaissent pas. Leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Et puis Jésus discute avec eux en chemin. Il leur pose des questions. Eux se lamentent en disant « Enfin, est-ce que tu es le seul de Jérusalem qui ne sait pas ce qui est arrivé ?» etc. Et puis ensuite, Jésus commence à leur parler et à leur expliquer pourquoi ces choses sont arrivées. Verset 25, « Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Les prophètes, c'est ce que je vous disais, tous ces livres de Josué jusqu'à Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse, c'est-à-dire la loi de Moïse, la Torah, et tous les prophètes, donc Jésus leur fait un cours biblique. Vous auriez voulu être là, ce cours biblique ?
Oui.
Hein ? Il leur fait un cours biblique, et qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et tout à coup, ils découvrent que Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, etc., etc., tous ces livres-là, dans chaque livre, il est parlé de Jésus, finalement. Le psaume 22, Ésaïe 53, enfin, tous ces passages, vous voyez. Le psaume 110, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, devenue la principale de l'angle. Jésus dit, voilà, ça, c'est de moi qui est parlé ici. D'accord ? Le psaume 16, quand David dit, ma chair ne restera pas dans la corruption, il dit, voilà, là, il est parlé de la résurrection. Et David ne parle pas de lui, il parle de moi, parce que je suis le fils de David. Etc., etc. Comprenez ? Ézéchiel qui parle d'avoir un nouveau cœur. Je répondrai sur vous, mon esprit, vous aurez un nouveau cœur. Là aussi, c'est l'annonce de ce qui va se passer au travers de l'Évangile. Nos vies vont changer. Vous voyez ? Donc, quand Paul dit maintenant dans Romains, cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Comprenez ? La toute première prophétie dans Genèse, chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme, c'est Jésus. Toutes les jeunes filles en Israël s'attendaient à enfanter le Messie. Et c'est tombé sur Myriam. Vous comprenez ? Donc, toutes les générations te diront bien heureuse. C'est quand même toi qui as donné naissance au Messie. Vous voyez ? Et c'est lui qui écrase le serpent. Quand est-ce qu'il l'écrase ? À la croix. Et par sa résurrection. Amen. Donc, promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il y ait une relation entre les prophéties, l'Ancien Testament, et puis l'Évangile, ce que Jésus a fait ? C'est parce que la manière dont Dieu travaille pour nous convaincre et pour toucher nos cœurs, et puis, si vous voulez, le principe même du fait que l'Évangile est vrai et que ce n'est pas quelque chose qu'un homme a inventé, ce n'est pas une invention parmi tant d'autres, ce n'est pas une religion parmi d'autres, mais la preuve que c'est relié à notre histoire, à l'histoire de l'humanité et que c'est la vérité, c'est parce que Dieu a pour habitude, et le prophète Ésaïe l'explique dans les chapitres, à partir du chapitre 40, il explique que Dieu annonce à l'avance ce qui va arriver, d'accord ? Bien avant que ça arrive, pour que quand ça arrive, on puisse dire oui, c'était vraiment Dieu. Vous voyez ? Ça, c'est la méthode d'apologétique de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il se prouve lui-même. Et il dit aux idoles, allez-y vous maintenant, faites des prédictions. Racontez-nous ce qui va arriver. Vous êtes incapables. Vous voyez ? Vous me direz, oui, mais il y a quand même des gens qui arrivent par la divination. Oui, mais ils devinent rien. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils vous mettent sous une malédiction qui va vous arriver. Parce que vous avez accepté cette malédiction. Donc c'est pas de la prédiction, c'est de la malédiction, il ne faut pas tout confondre. Mais à part ce genre de manipulation-là, il n'y a que Dieu, le Dieu d'Israël, qui est capable de prédire 700 ans à l'avance ce qui va arriver. Vous voyez, par exemple, je dis de Cyrus, ça c'est dans Ésaïe, et Cyrus arrive 150 ans plus tard. Il a nommé Cyrus avant même que Cyrus soit né. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il fera toute ma volonté, il va libérer mon peuple, etc. etc. Il bâtira mon temple à Jérusalem, etc. dans Ésaïe, chapitre 45. Donc, Dieu annonce à l'avance ce qui va se passer. Quand ça arrive, on ne peut dire que c'était Dieu. Regardez, les prophéties le disent. Vous suivez ? J'ai pris le journal ce matin dans le métro. En entrant dans le métro. Et les nouvelles que j'ai lues, c'est les nouvelles d'hier, que j'ai entendues à la télévision hier soir. Ok ? Donc c'est pas intéressant. Je pense que j'ai passé au maximum 17 secondes sur le journal ce matin. Comprenez ? Mais j'ai passé bien une demi-heure à lire la Bible ce matin. Parce que quand j'ai la Bible, je découvre l'avenir. La Bible ne me parle pas d'hier, elle me parle de demain, d'après-demain. Vous comprenez ? Elle me parle aussi d'hier. Mais la Bible c'est le livre qui couvre toute l'histoire, mon histoire, ton histoire, d'accord ? Et donc, quand il est dit, quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez aussi, vous savez ce qui va se passer. Et quand les choses arrivent, vous n'êtes pas étonné. Et vous pouvez dire, oui, c'était dans les Écritures. On n'a pas tout le détail, on n'a pas toutes les précisions. C'est parfois au moment où les choses arrivent qu'on réalise que c'était dans les Écritures. Mais on avait déjà, on l'avait lu quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et tout à coup, ça devient réel. On se dit, ah, c'était ça. Et donc, quand Jésus arrive sur la terre, et qu'il parle avec ses disciples, et qu'il leur explique que les Écritures le concernent lui, tout à coup, les yeux des disciples s'ouvrent, ils disent, ah, mais c'est lui, alors. Mais oui, c'était écrit. Vous comprenez ? Donc, ils ont la preuve. Ils avaient besoin d'une preuve. Il fallait que ce soit écrit quelque part. Vous comprenez ? C'est pas un imposteur, c'est pas quelqu'un qui a inventé quelque chose. C'était écrit. Hein ? Et c'est important. C'est important d'avoir des documents, c'est important d'étudier ces choses. Parce que l'évangile qu'on prêche, c'est pas une invention, c'est pas une fantaisie, c'est pas... Vous voyez, c'est comme si, par exemple, aujourd'hui... on voulait rétablir le roi en France. D'accord ? Quelqu'un disait, ben, c'est moi, je suis descendant de... On veut les preuves. Montre-nous ton arbre généalogique, montre-nous tes papiers, montre-nous ton nom. Enfin, on voudrait des preuves, non ? Vous comprenez ? On ne pourrait pas comme ça accepter n'importe qui. Donc, parce que si c'est... Et Jésus a une généalogie. Ok ? Il est fils de David selon la chair, on va le lire tout de suite là. Donc d'abord, il y a des prophéties. Ensuite, il y a la généalogie. Donc, il y a plein de choses concordantes, si vous voulez, qui sont, comment dire, qui vont appuyer l'évangile, en quelque sorte. Regardez avec moi. Cet évangile, verset 2, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils. On l'a vu, c'est l'histoire de Jésus. Hein, né de la descendance de David selon la chair. Donc, il est roi. Si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous commencez par une longue généalogie. J'avais rencontré au Mali, à Gao, dans le nord du Mali, avant qu'il y ait tous les problèmes avec le terrorisme, j'avais rencontré un pasteur de l'église baptiste de Gao qui nous avait donné son témoignage. Et il nous disait, voilà, je faisais partie d'une tribu du désert du Sahara, et j'étais un musulman. Et puis, un jour, vous savez, c'est des gens qui font du commerce, et il était donc en Côte d'Ivoire, dans la capitale, et puis il était chez son frère, et il s'ennuyait un peu parce qu'il n'avait rien à faire, son frère habitait dans un tout petit appartement, et voilà que, je ne sais plus par quel moyen, mais il a eu un Nouveau Testament entre les mains. Et quand il a ouvert ce Nouveau Testament, il est tombé sur Matthieu chapitre 1. Et il est tombé sur la généalogie de Jésus-Christ. Et vous savez, aujourd'hui, si vous donnez un Nouveau Testament à un Français lambda, il va vous dire, c'est quoi cette histoire, fils de, ils sont un peu perdus, les gens, vous voyez. Parce que déjà, le Nouveau Testament, ils ne connaissent pas, alors encore moins l'Ancien, et donc c'est un peu difficile. Mais pour cet homme-là, à cause de sa culture... où le fait de savoir qui est ton père, ton grand-père, c'est extrêmement important. Et plus tu peux remonter dans la génération, plus tu es un personnage important. Il a commencé à lire cette généalogie. Et avant d'arriver à la fin, il a su, dans son esprit et à cause de sa culture, il savait que cet homme-là est un grand roi. Et le Saint-Esprit l'a touché. Et dans sa cuisine, il s'est levé. Il a dit, Jésus, je viens vers toi. Et s'est converti comme ça. Parce qu'il a compris la grandeur de Jésus. Vous comprenez ? Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'Esprit de sainteté. On a besoin aujourd'hui de la puissance du Saint-Esprit qui confirme par des miracles. Donc il y a la confirmation des Écritures, et puis il y a la confirmation par les miracles. La parole et l'esprit marchent toujours ensemble. Vous voyez ? C'est pour ça que quand vous prêchez l'évangile, Il faut prêcher les Écritures. Il faut dire ce que dit la Bible. Si vous écoutez les messages de Billy Graham sur YouTube, et vous avez des anciennes vidéos de ces messages qui sont traduits en français, écoutez-les, ça vaut la peine. Et Billy Graham disait toujours, la Bible dit, la Bible dit. D'accord ? Vous me direz, oui, mais si les gens auxquels vous parlez n'ont jamais lu la Bible, quand vous prêchez pas seulement à des cerveaux humains, vous prêchez aux puissances spirituelles qui sont autour. Il y a une autorité dans la parole de Dieu, vous comprenez ? Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, à l'époque, si vous voulez, au moment des événements, la résurrection de Jésus, c'était l'événement qui était la preuve, mais aujourd'hui, c'est les miracles qui viennent, vous voyez, c'est la puissance de la résurrection qui continue à agir au travers de ceux qui prêchent, pour que les gens qui écoutent l'Évangile sachent qu'il y a une réalité. Vous voyez ? Donc vous voyez que ça commence fort, hein, cet épître aux Romains. C'est vraiment, si vous voulez, l'épître aux Romains, comme disait Luther, c'est l'Évangile sous sa forme la plus pure. Hein. C'est par lui, verset 5, que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Voilà les versets 5 et 6. C'est par lui, donc c'est par Jésus-Christ que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Paul l'avait reçu par sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Les autres apôtres l'avaient reçu non seulement parce qu'ils avaient été formés par Jésus sur le terrain pendant 3 ans, mais parce qu'au moment de la Pentecôte, ils ont reçu Saint-Esprit. D'accord ? Et donc, ils ont reçu la grâce et l'apostolat. En recevant la puissance d'en haut, ils reçoivent la grâce, donc la capacité. Et l'apostolat, c'est-à-dire le champ de mission et l'autorité pour amener à l'obéissance. Parce que pour amener quelqu'un à l'obéissance, il faut que vous ayez une autorité. Vous voyez ? Mais ce qui est intéressant dans l'expression « amener à l'obéissance », c'est que nous, on aurait tendance, en prêchant l'Évangile, à dire aux gens « je vous suggère, c'est un conseil d'amis, si jamais vous le voulez, si vous le voulez bien, si ça ne vous dérange pas, éventuellement, par hasard, au cas où vous auriez envie de croire en Jésus. » Vous voyez, je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça. « Excusez-moi de m'excuser, mais j'aimerais vous parler de quelque chose. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Bon, ce n'est pas très important ce que je vais vous dire, mais bon, ça pourrait peut-être vous servir un jour. » Non, ce n'est pas ça l'Évangile. Vous voyez ? Amener à l'obéissance. Comment est-ce qu'on fait pour amener quelqu'un à l'obéissance ? Surtout en France.
T'as la réponse ?
Oui, j'ai la réponse. Elle est là, la réponse. C'est la grâce et l'apostolat. C'est-à-dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, on a tout à coup, à cause de l'amour de Christ qui nous presse, on a tout à coup une sorte d'autorité, d'accord, qui ne vient pas de nous, qui vient de Dieu. Et on serait presque prêt à saisir les gens physiquement en leur disant « Maintenant, il faut que tu te convertisses. Sinon, tu vas en enfer. » Vous voyez ? Il y avait comme ça à Saint-Étienne, dans les années 50, un membre d'une église, c'était à l'époque où il y avait encore un petit peu de réveil dans les églises. Et puis, il désirait annoncer l'Évangile, mais il bégayait. Et donc, c'était difficile pour lui. D'accord ? Et il s'est mis dans un... Il y avait un passage souterrain à Saint-Étienne où il y avait beaucoup de gens qui passaient par là pour passer sous une route au centre-ville. Et il s'est mis dans le passage souterrain, il a commencé à prêcher l'Évangile, et puis les gens ne l'écoutaient pas. Et puis tout en bégayant, il a dit « Si vous ne m'écoutez pas, vous allez en enfer !» Et là, tout le monde s'est arrêté. Et puis il a annoncé le message. Vous voyez, il y a une autorité dans l'Évangile. Il y a une autorité qui vient de Dieu. Et les gens, pourquoi est-ce qu'on a une autorité? Parce qu'on ne parle pas juste à un citoyen français ou à quelqu'un qui a fait des études ou je ne sais pas à qui. Ou... Non, vous parlez à une créature de Dieu qui a été créée par Dieu et qui est déconnectée de son créateur à cause du péché et qui profondément, même si intellectuellement ce n'est pas imprimé, mais qui au fond de son être spirituel sait qu'il a besoin de Dieu. Donc quand vous parlez à son esprit, quelque chose qui va répondre. Vous amenez à l'obéissance toutes les nations, parce que vous avez reçu la grâce et l'apostolat. Est-ce que vous suivez? Donc ça se passe par la prière, parce qu'il faut être rempli de cet esprit-là, l'esprit de Dieu, de cette grâce et de cet apostolat. Et puis ensuite, vous touchez l'esprit des gens, et vous avez des gens qui vont être touchés par l'évangile. Et j'avais vécu ça, je vous donne un exemple pratique. J'étais à Londres, et puis on avait organisé une grande réunion d'évangélisation avec Colinda et quelque part dans une salle publique à Londres. Et je faisais partie de l'équipe qui s'occupait de, on appelait ça la consolidation, c'est-à-dire que lorsque les gens se levaient pour l'appel, au salut, à la fin de la réunion, du message, de l'évangile, eh bien, on s'approchait d'eux, ou bien on les invitait à aller derrière pour parler avec un conseiller. Donc j'étais un conseiller, comme dans certaines campagnes d'évangélisation. Et alors, avant la réunion, la responsable des conseillers nous a réunis, on a prié, et nous a dit, vous verrez, il y aura beaucoup de gens qui vont se lever, donc soyez prêts, soyez attentifs, etc. Elle dit, mais comment est-ce qu'elle sait que beaucoup de gens... Mais parce qu'elle avait prié. Et elle savait que le coup de filet serait donné, et dans le monde spirituel, elle avait comme déjà le nombre de gens qui allaient se convertir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est spirituel. Mais moi, je comptais dans ma tête avec, oui, mais comment est-ce qu'ils vont réussir à convaincre les gens qu'il faut se convertir, etc. Ils sont venus... Il y avait d'abord une sorte de concert, vous voyez. Puis après, à la fin du concert, il y a un message très court, et après, il y a un appel. Et puis, effectivement, à la fin du concert, Colinda, il se lève, il prêche 10 minutes, un quart d'heure, c'était très court. Il élève Jésus. C'était pas du tout un message d'évangélisation comme moi, j'aurais imaginé. C'était pas une longue explication. C'était juste présenter qui est Jésus-Christ. Sa grandeur, sa puissance. Et puis ensuite, il fait un appel. Et tout à coup, les gens se lèvent de partout. J'étais là, je me disais, c'est incroyable. Donc, beaucoup de travail. Et je me retrouve avec un Français qui venait de Paris ou je ne sais pas où. Je lui dis, mais comment c'est possible qu'un Français se convertisse comme ça? Vous voyez? Et là, pour moi, c'était comme un déclic. J'ai compris à quel point c'est spirituel. Vous voyez? Parce que la personne qui se convertit, au moment où elle est touchée dans son esprit, elle va obéir à l'évangile, puisque Paul dit « amener à l'obéissance ». Elle va obéir, elle va répondre à l'appel, elle va donner sa vie à Jésus. Et puis ensuite, à quoi elle va dire « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et puis il y a plein de choses dans sa tête qui ne collent pas avec ce qu'elle vient de faire. C'est toutes ces vieilles ornières, c'est pour ça que Paul parle ensuite d'être transformé dans l'esprit de votre intelligence, vous comprenez? Donc après, il y a tout un travail à faire, évidemment. Mais au moment de la... où le filet est lancé, le poisson, il entre dans le filet. Parce qu'on a l'autorité de l'évangile. Vous suivez comment ça marche?
Bon. Alors, les gens qui... Oui. Par exemple, dimanche, j'ai annoncé oui. l'évangile à une personne.
Oui.
Parce qu'elle avait des tatouages. Et sur un côté de son cou, c'était des mains jointes.
Oui.
Et de l'autre côté, elle avait trois croix.
Oui.
Et comme par hasard, c'était les trois croix comme...
Oui, à Golgotha.
Dans la Bible, ouais. Mmh. Et il m'a dit qu'il avait fait ça parce qu'il trouvait ça esthétique. Mmh. J'ai dit, mais...
Donc t'as pu lui parler de l'évangile à cause de ça.
Ouais. Mmh. Et
donc des tatouages avec les trois croix, et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Des mains jointes. Donc il trouvait ça esthétique, et t'as pu lui parler de l'évangile.
Ouais.
Et donc
je lui ai annoncé en quatre points.
En quatre points, c'est-à-dire, voilà. Dieu a un plan pour ta vie.
Voilà. Mais le problème, c'est
le problème, c'est le péché qui te sépare de Dieu.
La solution, c'est Jésus.
Et maintenant, est-ce que tu veux l'accepter par la foi?
Et il a dit, non, je suis athée.
Il a dit non, je suis athée.
Et okay. Je me dis, mais donc, du coup, suite à ton enseignement, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est parce que j'étais moi pas rempli du Saint-Esprit à ce moment-là, ou est-ce que lui n'était pas prêt, qu'il était, entre guillemets.
Alors, je vous donne, si tu veux, oui, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté? Quand je vous donne ces exemples, je vous donne des exemples positifs, d'accord? Dans le sens là où tout à coup on voit les choses qui marchent, pour vous montrer comment l'évangile fonctionne. Mais Paul lui-même, à Athènes, tout le monde ne s'est pas converti quand il a prêché à l'Areopage. Il y en a qui se sont moqués de lui, qui sont partis en rigolant. Il y en a quelques-uns qui ont cru. Donc, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, tout le monde va croire. Il n'y a rien d'automatique, ce n'est pas comme une machine. Tu vois, qui est... Mais néanmoins, on comprend que lorsque quelqu'un croit, on comprend que c'est quelque chose de spirituel et qu'effectivement, il a été amené à l'obéissance. Non pas parce qu'on a dit « maintenant, il faut obéir », voyez, mais parce que dans l'Évangile, il y a une autorité. C'est ça que je voulais dire. Après, pourquoi certains oui, d'autres non? Ça, c'est encore une autre question. D'accord, mais lorsque les gens croient, on se rend compte qu'ils ne croient pas par la force du raisonnement, mais qu'ils croient parce qu'il y a une autorité spirituelle dans l'Évangile et que leur être spirituel a répondu à cet appel. Tu vois?
Si vous voyez cet homme prêcher de l'Évangile.
Ouais. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas venir au Seigneur. Oui, simplement qu'il n'est pas venu à ce moment-là. Oui, tu comprends?
À ce moment-là.
Donc il y a aussi ça qui peut rentrer en ligne de compte. Ok. Alors. Donc il parle de l'obéissance de la foi pour toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Et donc ça veut dire que Paul s'intéresse à toutes les nations, il s'intéresse aussi aux Romains. Et puis vous verrez qu'à la fin de son épître, quand il va leur dire, écoutez maintenant, quand je serai venu chez vous, bon, après j'en prends quelques-uns avec vous, puis on ira plus loin, on ira en Espagne. Donc Paul a vraiment une stratégie missionnaire constamment dans sa tête, vous voyez. C'est pas, il ne veut pas aller à Rome parce qu'on lui a dit que le Colisée était très beau. Non, ça ne l'intéresse pas. Il ne parle pas d'architecture. Il aurait pu parler d'architecture. Enfin, Paul, tu aurais pu raconter en disant « Ah oui, au fait, vous, il paraît que votre ville est très belle. Vous n'avez pas une chambre d'hôtel pour moi juste en face du Colisée ?» Non, dis pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule chose qui l'intéresse. C'est d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Ok? À tous ceux qui, à Rome, verset 7, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, c'est extraordinaire ça. C'est important cette introduction de Paul pour les chrétiens qui sont à Rome, parce que, en fait, il va parler de l'amour de Dieu dans son épître. Il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est bien-aimé de Dieu. Et puis d'autre part, appelé à être saint, ça veut dire que à la fois on est sanctifié une fois pour toutes par l'Évangile, mais en même temps on est appelé à être saint. C'est notre appel d'être saint, vous voyez. Et donc à la fois on est saint et en même temps on marche vers la sainteté. On dirait comment c'est possible les deux ensemble. C'était, comment il s'appelle, Richard von Brand, que j'avais écouté une fois à la radio quand j'avais 12 ans, c'était Jacques Chancel qui l'interrogeait, et puis c'était un homme très connu parce qu'il avait fait 14 ans de prison dans les prisons communistes, et il est encore aujourd'hui, les messages de von Brand passent à la radio en Roumanie. Il a amené beaucoup de gens à la foi en Roumanie, grâce à son témoignage et à ses prisons qu'il a vécues avec Dieu, et il a écrit plusieurs livres intéressants. Et donc Jacques Chancel, à un moment, lui dit comme ça, « Mais vous avez un sourire, monsieur von Brand. On dit que vous êtes un saint. » Alors von Brand lui répond, « Oui, je suis un saint. » Puis il laisse un petit silence. Parce que vous voyez, dire ça en France, dans la mentalité catholique, si vous dites à quelqu'un « Je suis un saint », les gens ils vont vous dire, « Mais tu te prends pour qui ?» Donc il savait très bien ce qu'il disait. Et puis après son petit silence, il dit, « Mais je suis un saint à crédit. » Vous comprenez ? Je suis un saint. Pourquoi ? Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai été sanctifié. Mais je suis un saint à crédit parce que c'est sur le crédit de son sacrifice parfait à la croix, mais je marche encore vers la sainteté. Vous suivez ? Donc, c'est au crédit de Jésus tout ça. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On a constamment besoin de la grâce de Dieu. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a cette bénédiction. On doit être constamment au bénéfice de sa grâce. Il y a des chrétiens qui pensent que la grâce, c'était le jour où ils ont été sauvés, puis après ça s'est arrêté, il n'y a plus de grâce. Et puis à partir de maintenant, tout est par les œuvres. Elle assure de son front. Non. On vit constamment dans la grâce. Et le jour où vous arrêtez de vivre de la grâce de Dieu, vous avez un gros problème. Vous voyez ? Mais on verra ça un peu plus loin. Ok. Je ne sais pas si on a le temps d'aller... On prend encore quelques minutes. Je rends d'abord, verset 8 de Romains chapitre 1, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. Je demande d'avoir enfin, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous. Ces trois versets-là, c'est vraiment typique de Paul dans ses épîtres. Très souvent, il dit qu'il prie continuellement pour telle ou telle église ou tel chrétien. D'accord ? Et donc, et il se réjouit de ce que l'évangile avance et que de ce que la foi de telle église est renommée partout. Vous voyez ? Donc il se réjouit, il les mentionne dans ses prières, il prie pour eux continuellement et il désire aller vers eux. D'accord ? Ça, disons, c'est quelque chose que vous retrouvez dans beaucoup d'épîtres de Paul. Mais il dit quelque chose d'intéressant au verset 9. « Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. » Pourquoi est-ce qu'il précise que je sers en mon esprit ? Vous voyez ? C'est parce que Paul ne sert pas Dieu avec ses propres forces. Paul ne sert pas Dieu avec ses moyens humains. D'accord ? Mais Paul est dans un service spirituel. Et si vous lisez, on va lire un tout petit peu dans Romains chapitre 15, parce qu'il y a un rapport entre le début et la fin de l'épître, si vous voulez. Verset 15, Romains 15, 15. « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ pour les païens, ou serviteur de Jésus-Christ pour les païens. Les païens, c'est les nations. Je m'acquitte du service sacré. » En fait, c'est le leiturgia en grec, c'est le service dans le temple. Vous voyez, le service que faisaient les sacrificateurs dans le temple. Je m'acquitte du service sacré de l'évangile de Dieu. Ah, donc l'évangile de Dieu, c'est un service de sacrificateur dans le temple. C'est comme ça que Paul conçoit son service pour Christ. Et il dit ici au chapitre 1 que je sers en mon esprit. Donc c'est un service spirituel, c'est des sacrifices apportés à Dieu. Et il précise, afin que les païens lui soient une offrande agréable, sanctifiée par l'Esprit Saint. Donc lorsque Paul prêche l'évangile, pour lui, dans le monde spirituel, il présente les nations, les gens de toutes les nations qui se convertissent à Dieu comme une offrande, sanctifiée à Dieu. Vous voyez ? C'est un service spirituel pour Paul. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils. Par l'évangile, j'amène les nations à l'obéissance de Christ et toutes ces personnes sont sanctifiées par Saint-Esprit. Et je les présente à Dieu, et je vous présenterai à Dieu dans le ciel, dans le tabernacle céleste, comme une offrande pure, en disant, voilà, ils sont à ton service. Vous comprenez ? Les Lévites, dans l'Ancien Testament, ils étaient, pour être consacrés, on les tournait de côté et d'autre devant Dieu, comme une offrande. Et ensuite, ils étaient au service de Dieu. On est appelé à servir Dieu dans son temple. Vous voyez ? On parle de choses spirituelles ici. Parle pas juste parce que vous savez le problème aujourd'hui c'est que on est tellement centré sur l'homme et on pense à l'évangile en termes de bénéfices. Qu'est-ce que je vais en retirer? Ok, l'évangile ça va, qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que je vais gagner avec ça? Est-ce que j'aurai une meilleure vie? Est-ce que j'aurai une meilleure retraite? Ok, c'est comme ça que pensent les chrétiens d'aujourd'hui. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est des persécutions sur la terre. Si tu sacrifies tout pour Dieu, Dieu va te le rendre au centuple, déjà sur cette terre, mais surtout dans le monde à venir. Mais c'est surtout la préparation à servir Dieu dans son temple. Vous comprenez ? C'est la préparation pour le ciel. C'est d'être en communion avec Dieu pour l'éternité. On est appelé par Jésus-Christ, vous voyez ? À la communion avec le Père. L'évangile, c'est pas juste avoir une meilleure vie. C'est sûr que l'évangile... Ça nous apporte une joie immense et qu'il y a des, je dirais, il y a des effets secondaires où il y a un sous-produit de l'évangile dans notre vie, c'est qu'il y a une certaine bénédiction qui accompagne l'évangile. Mais il y a aussi des persécutions, voyez. Donc au final, c'est pas si facile de suivre le Seigneur sur cette terre. Ce serait beaucoup plus facile de dire, écoute Seigneur, ton évangile, je vais attendre 90 ans, là je m'en occuperai, et en attendant, laisse-moi vivre ma vie. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Je suis trop jeune, plus tard. Vous voyez ? Parce qu'ils veulent, entre guillemets, profiter de la vie. Et ils savent quelque part, profondément, si je suis le Seigneur Jésus, il y a un sacrifice. Il y a un renoncement. En réalité, on est beaucoup plus heureux dans l'évangile qu'en dehors de l'évangile. Ça, c'est clair. Mais du point de vue strictement centré sur l'homme et terrestre, on n'a pas envie. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire ? Or, l'évangile dont Paul parle ici, c'est l'évangile de Dieu qui nous prépare pour l'éternité. C'est centré sur Dieu. Ok ? Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais mention de vous toujours et continuellement dans mes prières. En d'autres termes, ce que je vous annonce ici dans l'Épître aux Romains, ce n'est pas juste le fruit de mes propres raisonnements, de mes propres pensées, mais c'est né dans la prière. Sous-entendu aussi, vous ne pouvez pas comprendre l'Épître aux Romains sans prier. Et que les plus belles exégèses, les plus belles études approfondies, etc., ne remplaceront jamais la prière. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être exigeant dans l'étude de la parole, être sûr de ce que dit le texte, mais en même temps, on ne pourra pas comprendre la substance, on ne pourra pas être nourri par le texte si on n'est pas dans la prière. Et si on n'est pas saisi, comme Paul, par cet évangile, par le Saint-Esprit, pour servir le Seigneur pour son évangile. Vous suivez ? Et je demande d'avoir enfin, donc, Dieu voulant, une occasion favorable d'aller chez vous, car je désire vivement vous voir. Je désire vivement vous voir. À la prochain épisode, tout à l'heure, on va voir de quoi il s'agit. Okay ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Ça va ? À tout de suite.